bonsoir et bienvenue, je veux dire, à cette deuxième conférence, La Bible, une histoire à recommander avec des personnages peu recommandables. Mais vraiment, quel bonheur de savoir que l'histoire de la Bible peut avoir des personnes, entre guillemets, peu recommandables, une manière aussi, en tout cas pour ma part, me dire que je pourrais faire partie de cette histoire et je ne ferai pas tâche parce que c'est l'histoire de Dieu qui rencontre l'histoire de l'homme et la Bible serait tout simplement une petite histoire angélique, aseptisée, s'il n'y avait pas ces personnages qui, moi, me font sentir partie de cette histoire de Dieu avec l'homme. Des personnages peu recommandables, un peu poussiéreux, des personnages dont on ne veut pas entendre parler, mais qui sont là pour nous rappeler que chacun de nous, indistinctement, nous faisons partie de cette histoire et on n'a pas besoin d'être saint pour, ceci dit, je sais que vous êtes saints et des saintes. Hein. Je ne parle pas de vous, je parle de moi. On n'a pas besoin d'être saint, d'être en odeur de sainteté pour faire partie de cette histoire de Dieu pour l'homme. Au contraire, c'est parce que nous ne le sommes pas que Dieu nous appelle à l'être, que nous faisons partie de l'histoire de Dieu, de l'histoire de la Bible. Alors, avec nous ce soir, Jean-Pierre Pire, qui ne le connaît pas, levez la main qui ne le connaît pas. Jean-Pierre, tu es très connu. Oh, Véronique, oh, Monique. Tout le monde te connaît, Jean-Pierre. Alors, que puis-je dire de toi qu'ils ne savent pas encore?
Des choses peut-être pas très recommandables.
Alors, une chose recommandable, c'est qu'il est curé doyen de tout Liège. Une autre chose recommandable, pendant 20 ans, il était prof de religion et de lettres classiques. Pendant 20 ans, vous voyez, c'est quand même beaucoup, c'est quand même une histoire. Et puis, il est là, avec nous ce soir, pour nous redonner le goût de la Bible, le goût de cette histoire qui nous habite chacun et qui est parfois si loin de nous parce que nous n'arrivons pas tellement à la comprendre. Jean-Pierre, merci d'avoir accepté l'invitation. Je vais révéler un secret, c'est que avant, j'ai contacté Jean-Pierre et je lui ai dit, tu ne ferais pas une petite conférence à Saint-François de Sales? Alors il m'a proposé le thème, le Dieu des armées ou le Seigneur des armées.
Oui, d'accord.
Alors après, on a eu une longue discussion, il a encore changé le thème et donc on est arrivé à ce titre-là. Je vous laisse avec Jean-Pierre et merci d'avoir accepté de venir nous parler ce soir.
Avec plaisir. Merci, Rodney. Alors, bonsoir à tous et à toutes. C'est vrai que je me suis beaucoup torturé l'esprit sur comment j'allais démarrer, parce que c'est un sujet extrêmement vaste. Parler de la violence dans la Bible, des personnes violentes dans la Bible, je dirais que ce n'est pas difficile à trouver, c'est presque à toutes les pages. Mais comment aborder ce vaste sujet? Et finalement c'est en préparant mon homélie pour les lectures de dimanche dernier que j'ai trouvé le fil rouge. J'ai trouvé le fil rouge à partir d'un mot qui intervient explicitement dans deux des trois lectures qui nous étaient proposées dimanche dernier. Et le même mot est évoqué de manière quand même assez claire, le même mot et le même thème est évoqué dans une des trois lectures. Je vous lis les trois phrases qui m'ont permis de trouver le fil rouge de cette conférence. C'est d'abord, je vais commencer par l'Évangile, parce que c'est là que j'ai tilté. À la fin, vous savez que c'est l'Évangile qui racontait le mauvais accueil fait par les villageois de Nazareth à Jésus. Et ils voulaient même le précipiter au fond d'un trou. Et Luc simplement que lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Et en préambule à l'hymne à l'amour de saint Paul, et maintenant je vais vous indiquer le chemin par excellence. Et dans la première lecture tirée de Jérémie, « Toi, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi. » Quand on mettait sa ceinture autour des reins, ça voulait dire que soit on part bataille, si on était un soldat, soit on partait au champ avec ses instruments agricoles pour aller travailler. « Toi, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi. » C'est de nouveau évoquer l'idée du chemin. Et justement, ce thème du chemin, et je dirais cette parabole du chemin, je ne dirais pas ce concept du chemin, parce que les concepts, c'est grec. Ici, nous sommes avec un peuple sémite, nomade à ses débuts, ou semi-nomade, et qui sait ce que c'est qu'un chemin, et tout ce que cela suppose que d'être sur le chemin. Et je vais simplement vous citer des passages, des grandes épopées de la Bible, où cette parabole du chemin revient constamment. Je dis parabole parce que, plus que chez les Grecs, dont nous sommes aussi les héritiers, la pensée sémite est une pensée plus existentielle, basée vraiment sur l'expérience et pas d'abord sur des idées intellectuelles. Il y a le chemin d'Abraham, hein, vous connaissez, « Va, quitte ton pays et va dans le pays que je t'indiquerai ». Le chemin de l'Exode vers la terre promise à travers le désert. Le chemin de l'exil, puisque un jour, vers les années 600 avant Jésus-Christ, le peuple va devoir quitter la terre promise, va être déporté par les Babyloniens et va se retrouver dans le pays que nous nommons pour une grande partie aujourd'hui l'Irak. Ce thème va revenir dans les psaumes aussi. Le psaume 1, c'est le psaume des deux chemins, le psaume des deux voies. Il y a deux chemins pour se conduire, un bon et un mauvais. Et évidemment, le vrai chemin pour un juif, c'est la loi, c'est la Torah. Et d'ailleurs, on traduit par loi, mais il faudrait trouver des mots qui, je dirais, qui évoquent plutôt la direction, le chemin. Dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. Jésus va même jusqu'à aller dire, blasphème suprême pour un juif, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jésus va aller, comme tout bon juif, trois fois par an, en pèlerinage à Jérusalem. Dans ces paraboles, rappelez-vous une de ses plus fameuses, il parle du chemin qu'un homme descend de Jérusalem à Jéricho. Cette fameuse parabole du bon samaritain, où justement, les trois personnes qui sont les héros de cette parabole vont devoir choisir entre deux chemins. Ou bien je m'arrête au bord du chemin et je fais attention à cet homme qui a été attaqué par des brigands et qui est ensanglanté, ou bien, comme le lévite et le prêtre, « Ah, mais je vais devenir impur, et donc je ne peux pas m'arrêter auprès de cet homme, sinon je ne pourrai plus accomplir mon service. » Là aussi, ils ont dû choisir entre deux voies. Vous retrouvez Jésus avec ses deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et où se passe la conversion de saint Paul ? Sur le chemin de Damas. Et plus fort que cela, c'est quelque chose qu'on a oublié. Dans les Actes des apôtres, au début, on ne va pas désigner les chrétiens sous le terme de chrétien. Le mot chrétien se trouve 3 fois dans le Nouveau Testament, 2 fois dans les Actes des apôtres, 1 fois dans la lettre aux Hébreux. Comment est-ce qu'on va désigner les adeptes de Jésus dans un premier temps? Et ça se retrouve 8 fois dans les Actes des apôtres, c'est les adeptes de la voie, V-O-I-E, pas V-O-I-X, les adeptes de la voie. Et j'ai regardé dans la Bible, la nouvelle Bible liturgique, eh bien on n'a pas gardé l'expression « les adeptes de la voie », on a gardé l'expression « ceux et celles qui suivent le chemin de Dieu ». On a gardé cette idée, enfin je ne devrais pas dire cette idée, cette expérience du chemin. Vous allez voir pourquoi j'insiste là-dessus. Si je voulais reprendre en une formule tout ce que j'ai essayé d'évoquer avec ce terme de chemin, je choisirai le titre d'un film que vous avez peut-être vu, un film du réalisateur roumain Radu Mihaileanu, sorti en 2005, « Va, vis et deviens ». Il y en a qui l'ont vu, ce film ? Oui. Et donc, cet enfant qui est chrétien au départ, qui est éthiopien, qui est de race noire, va vivre un chemin que sa mère va lui imposer. Pour le sauver, elle va l'obliger à rejoindre le groupe des Juifs qui va sortir d'un des camps au Soudan où ils sont parqués dans de très mauvaises conditions pour lui donner une chance de survivre. Va, vis et deviens. Va, quitte ton pays, quitte tes certitudes, ouvre-toi à l'extérieur, sors de toi-même, car en vivant avec les autres sur le chemin, toute une série d'événements, et c'est le deuxième mot que je voudrais souligné en particulier aujourd'hui, au gré de tous ces événements que tu vas vivre, tu vas devenir quelqu'un. Et ces événements, c'est finalement cela que raconte la Bible, ces événements sont marqués par le don ou le refus, le bonheur ou le malheur, l'amitié ou l'inimitié, la paix ou la violence. Toute la Bible raconte un chemin de vie, de plusieurs vies, et de vie faite plus souvent de malheur et de violence. Et c'est vraiment important de souligner cela, parce que c'est le deuxième point auquel je voudrais arriver. La Bible raconte une histoire et raconte des événements. D'ailleurs, il y a un mot en hébreu qui, c'est assez unique dans l'histoire des langues humaines, un mot qui a une double signification, qui signifie à la fois parole et événement. Et donc la parole de Dieu, c'est aussi un événement. Et un événement, c'est aussi une parole. Ce mot hébreu, je vous le donne, c'est davar et devarim au pluriel. Et dans ce mot-là, est utilisé pour donner, pour résumer toute la vie d'une personne. Je vous lis un passage du livre des rois, du deuxième livre des rois, qui parle du roi d'Ézéchias. Le reste des actes d'Ézéchias, tous ses exploits, cela n'est-il pas écrit au livre des annales des rois de Juda ? Le reste des actes d'Ézéchias, ici on a traduit par le mot acte, donc le reste de tout ce qu'a fait Ézéchias, de tous les événements, de toutes les paroles, et donc tout ça est résumé, toute la vie de quelqu'un, avec ce mot d'avare ou de varine, ce qui veut dire les événements de la vie d'une personne. Ce qui intéresse la Bible, ce n'est pas d'abord une morale ou des principes, c'est de nous faire réfléchir sur des événements. Et des événements qui, très souvent, sont des événements violents, marqués par la violence. Donc la Bible est un livre sacré, je dirais, très différent de beaucoup d'autres livres sacrés, où souvent on expose des principes de sagesse. Ici, c'est vrai que la Bible contient quelques livres de sagesse, contient quelques pages avec des règles, mais finalement, quand vous prenez une Bible avec ses, enfin, une Bible francophone, une grosse Bible avec ses notes et ses annotations, vous avez à peu près 2000 pages. Vous avez les 9 dixièmes de la Bible qui racontent essentiellement des histoires, des événements et qui racontent l'histoire de personnes. On ne veut pas défendre des principes, une morale, des règles de morale, même s'il y en a, je dirais, inévitablement dans la Bible, mais on se centre vraiment sur le chemin que des personnes ont pris et sur tous les événements heureux ou malheureux qu'elles ont vécu sur ce chemin. C'est ainsi que je reprends la parole d'un grand philosophe français du XXe siècle qui est mort très jeune, Emmanuel Mounier, qui a cette phrase extraordinaire qui finalement résume toute la mentalité biblique. Il écrit donc dans la première partie du XXe siècle, dans les années 30, 40, des années très tumultueuses, comme vous le savez, l'événement sera notre maître intérieur. Si je veux réfléchir sur ma vie, ce n'est pas à partir de grands principes, c'est à partir des événements qui constituent ma vie, qui constituent la vie des autres. Et surtout aussi, tous les événements où j'ai subi de la violence, ou bien où j'ai commis moi-même des violences, où j'ai été violent de différentes manières avec différentes personnes. Donc ça c'est vraiment, vous comprenez pourquoi j'ai voulu commencer avec le chemin qui évoque tout un parcours de vie avec des personnes qui vivent toute une série d'événements, de paroles, événements. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre justement à avoir dans la Bible des personnes recommandables, des modèles? Eh bien, à part Jésus, et encore, parce que Jésus a été violent aussi, hein, et ne l'excusons pas trop vite, même si c'est celui que nous appelons notre Seigneur, il a été violent, et pas un petit peu. On pourra mettre Marie comme modèle, bien sûr. Quand j'en ai parlé dans une paroisse, quelqu'un qui s'appelait José m'a dit « Mais tu as oublié Joseph ? » Bon, allez, on va encore mettre Joseph. On sait très peu de choses sur lui. Mais, je dirais, tous les autres, à peu près tous les autres, il n'y en a aucun qui est un... J'ai oublié quelqu'un ? Jean. Oui, mais attendez, Jean et Jacques, ils se précipitent avec leur mère dans un des évangiles, sans leur mère, dans un autre évangile, pour demander à Jésus d'être ses premiers ministres. Hein. Et donc, il y a aussi une violence de l'ambition. Hein. Alors, Jean, je suis d'accord avec vous, il va rester avec Jésus jusqu'au bout. Hein, d'accord, voilà. Mais, bon, on pourrait discuter encore longuement et soupeser le poids des qualités de chacun et de chacune, mais quand vous prenez les 11 apôtres, même si on prend pas seulement le Premier Testament, mais celui que nous appelons le Nouveau, le Deuxième, tous les apôtres qui sont des poltrons et des couards et qui quittent Jésus au moment le plus critique, je ne dis pas que j'aurais fait mieux qu'eux, hein, sûrement pas, je crois que j'aurais fait comme eux, je ne vais sûrement pas me recommander à ce sujet-là, mais on voit, dans toute la Bible, quand on lit aussi les Actes des Apôtres, il y a aussi plein de problèmes et de querelles, donc cette violence, elle est vraiment partout. On ne rencontre pas de personnes 100% irréprochables qu'on pourrait labelliser. Et c'est heureux, il n'y a aucun super-héros dans la Bible. Aucun. Je reprends ce qu'a dit Rottenay, pour nous dire, mais moi, je sais bien que je ne suis pas un super-héros, que j'ai mes ombres, j'ai mes lumières, mais j'ai aussi mes ombres, eh bien, je fais partie de cette cohorte humaine, je fais partie de cette cohorte de ces gens-là. Et donc, avec eux, je suis invité à réfléchir sur le mystère de toute personne humaine. Ce mystère qui fait que, à certains moments, je peux commettre le mal, voire même des choses abominables, et que, à d'autres moments, je peux me montrer le plus affectueux des hommes, le plus amoureux des hommes, dans le sens véritable du terme. Hein. Et au XXe siècle, on a vu que, justement, l'horreur pouvait côtoyer l'amour le plus naturel. Hein. C'est Anna Arendt, une philosophe juive, qui a fait remarquer lors du procès Eichmann qui s'est tenu en Israël au début des années 60, que ce bourreau nazi, il était très affectueux envers ses enfants et que c'était un bon père. Et on a commencé aussi à partir de là à analyser les historiens, toute une série de personnalités où on voit dans la même personne un mal extrême et une aspiration à certaines valeurs. Et donc, c'est pour ça que la Bible est un livre fantastique. Parce qu'elle ne met pas cette violence de côté. Elle est là. Qu'est-ce qu'on fait avec? Et c'est ça, je crois, qui peut nous permettre de réfléchir sans faux fouillant sur le mystère de l'humanité, de l'être humain. Quand je dis le mystère, je prends ça dans le sens de Saint Augustin. Saint Augustin donne une très belle définition du mystère. Le mystère, ce n'est pas ce que je ne peux pas comprendre, ou une personne que je ne peux pas comprendre, c'est ce que je n'ai, ce que je n'aurai jamais fini de comprendre. Et je crois que tous les êtres humains, même si c'est quelqu'un qui est notre femme ou notre mari depuis 50 ans, nous n'aurons jamais assez de toute notre vie pour le connaître ou la connaître. Et donc, ça vaut la peine de passer du temps, de passer en revue tous ces gens peu recommandables de la Bible pour voir, pour essayer à la fois d'entrer dans leur mystère et d'entrer dans un deuxième mystère encore plus grand, celui de la miséricorde de Dieu. parce que je vais vous montrer que chaque fois qu'il y a de la violence, et vous savez que la violence, ça bloque tout, ça bloque tout dialogue, surtout si cette violence aboutit à la mort de quelqu'un, ben, on ne peut même plus revenir en arrière, eh bien, dans ces moments où tout est bloqué, eh bien, Dieu, d'une manière ou d'une autre, relance l'histoire. Et donc, ce que je vous invite à voir dans la Bible quand vous lisez un texte extrêmement violent ou une histoire extrêmement violente, regardez aussi ce qui se passe après. Ne vous focalisez pas seulement sur cette description, parfois à la limite du supportable. Hein. Entre parenthèses, j'ouvre une petite parenthèse, ne lisez jamais le livre des juges avant d'aller dormir. Maintenant, en vous disant ça, je vais vous donner peut-être, vais donner à ce livre l'attrait du fruit défendu et vous allez peut-être ce soir essayer d'aller lire une page ou deux, mais je vous aurais prévenu. Hein. Voilà, il y a une violence, on se dit, mais c'est pas possible. Hein. Mais allez voir aussi ce qui se passe après. Et ce que les Hébreux et puis les Juifs vont petit à petit comprendre que malgré toute cette violence, eh bien, Dieu est passé à travers. Dieu a relancé l'histoire et ne s'arrête pas à l'échec de cette violence, il vient visiter ces gens violents. C'est extraordinaire. Alors, je vous donne trois exemples que vous connaissez bien. Parce que, justement, les gens les moins recommandables sont aussi ceux que vous connaissez le mieux dans la Bible. Je suppose que vous connaissez Moïse, Élie et David. Eh bien, vraiment, ces trois personnages peu recommandables. Moïse, vous le savez, il a tué un contremaître égyptien. Et puis, il voit qu'il est poursuivi par la police de Pharaon, il s'enfuit au désert, et il abandonne tous ses projets. Il joue la sécurité, il va se marier avec une femme madianite, il va faire sa petite vie de berger, et il veut la terminer comme ça. Et il va se passer ce qui est raconté en Exode 3, la fameuse rencontre au buisson ardent, où Dieu va lui dire, écoute mon ami, c'est pas fini, hein, tu vas aller retrouver Pharaon, et je sais bien que c'est dangereux pour toi, hein, mais bon, et notre ami admirait le courage de Moïse, allez relire le texte, il va trouver 5 bonnes raisons, 5 objections pour ne pas aller chez Pharaon. Alors, vous voyez le courage de Moïse. Mais vraiment, il faut vraiment que Dieu le pousse. Hein. Et donc, il le relance. L'histoire de Moïse était terminée, c'est Dieu qui le relance. Élie, grand prophète Élie, au Carmel, il va provoquer, on a tué les prophètes de Yahvé, et donc il va défier les prophètes de Baal, de l'idole Baal, soutenu par la reine Jézabel, qui a épousé le roi d'Israël. Il va défier les prêtres de Baal au sommet du Carmel en leur disant, voilà, on va mettre 2 taureaux, un sur un autel consacré à Baal, un sur un autel consacré à Yahvé. Bon, chacun va prier de son côté et on verra bien le feu du ciel sur lequel il va tomber. S'il tombe chez Baal, ben, ce sera Baal qui sera le vrai Dieu. Et s'il tombe sur l'autel consacré à Yahvé, eh bien, ça signifiera que Yahvé, c'est le vrai Dieu. Et donc, Élie gagne le match et il fait massacrer les 450 prophètes de Baal. Il y a sans doute un peu d'exagération parce que c'est la geste d'Élie, mais toujours est-il que c'est vrai, on sait par l'histoire que les prêtres de Yahvé et les prêtres de Baal se sont entre-déchirés au propre et pas seulement au figuré. Et qu'est-ce qui va se passer ? Lui aussi va être poursuivi par la police de la reine Jézabel. Il va se réfugier, il va retourner à l'Horeb, donc au Sinaï, dans le désert, d'où toute l'histoire est partie, en venant d'Égypte, la traversée du désert. Et il en a marre, il dit « Oh Seigneur, laissez-moi mourir », etc. Lui aussi, comme Moïse, il veut s'arrêter. Et c'est là qu'il fait, comme Moïse, une rencontre extraordinaire à l'Horeb. Dieu qui ne se trouve pas dans le vacarme de l'ouragan, de la tempête, mais qui se trouve dans le bruissement d'un silence ténu dans une brise légère. Enfin, vous avez plusieurs traductions. Et Élie comprend qu'il doit trouver le Seigneur. Bien sûr, il peut le défendre, mais pas comme il l'a défendu jusqu'à présent. Et c'est là que, de nouveau, Dieu vient le relancer pour vivre sa foi en Yahvé, sa foi dans le Seigneur, d'une autre manière. Et donc, si vous pensez bien, quand Jésus est transfiguré sur le mont Tabor, il est entouré d'Élie et de Moïse, il est entouré, comme à la croix, de deux meurtriers. C'est quand même fou. Jésus est entouré, resplendissant, qui est le tout amour, il est entouré de deux meurtriers. Troisième exemple, que vous connaissez sans doute, David. Alors, David, vous en avez peut-être une idée fausse si vous ne lisez que ce que nous propose la liturgie catholique. J'ai fait ma petite enquête. Tous les passages où David verse le sang, notamment pour prendre le pouvoir par rapport à Saül, parce qu'il a assassiné la famille de Saül, il a assassiné différentes personnes pour prendre le pouvoir, c'est jamais raconté à la messe. Jamais. Et donc, la question à se poser, est-ce qu'on ne lisse pas trop le profil de certains héros? Alors je sais bien que nous croyons que Jésus, c'est le fils de David. Ben oui, c'est le fils de David avec toutes ses ombres et ses lumières. Et je vous assure, il a un fameux paquet de sang sur les mains, notre ami David. Mais il y a une chose. Je dirais, si vous lisez tout ce qui concerne David dans le livre de Samuel, dans les deux livres de Samuel, vous allez vous dire, mais ce David, c'est un monstre. Et il a fait de véritables assassinats prémédités. C'est pas Moïse, on pourrait dire, ben, il a vu le contremaître qui harcelait un de ses compatriotes, bon, il a eu un geste malheureux, il a tué le contremaître, mais David, c'est des assassinats prémédités. C'est marqué en toutes lettres dans la Bible. Et à côté de ça, vous avez l'épisode avec Nathan. Vous savez qu'il a vu une femme Bethsabée qui prenait son bain, et comme les rois de l'époque pouvaient tout se permettre, il convoque Bethsabée, il couche avec elle. Elle lui dit quelque temps après qu'elle est enceinte de lui. Et comme son mari, qui est un officier de l'armée de David, est en campagne, David prend peur. C'est étonnant pour un roi de l'époque, mais il prend peur et il fait revenir Uri, son mari. Et il l'invite à table, il essaye de le saouler convenablement. Et il lui dit après, rentre chez toi. Comme ça, en estimant une petite erreur de calcul, ni vu ni connu, l'enfant, on ne repérera pas que c'est l'enfant de David, mais que c'est l'enfant d'Urias. Mais comme nous sommes dans le contexte d'une guerre sainte, je n'explique pas parce que ça nous amènerait trop loin. Urias, c'est, alors qu'il est un étranger, il est un hittite, qu'il ne peut pas toucher une femme. Et donc, il désobéit à l'ordre du roi et il va coucher dans une des étables du roi et ne va pas retrouver sa femme. David, évidemment, qui l'a fait surveiller, l'apprend et lui dit « Pourquoi est-ce que tu as fait ça ?» Et c'est cet officier, Urias, qui lui fait la leçon ben, « Seigneur le roi, tu sais bien que voilà, il y a les règles de la guerre sainte. Voilà, je ne pouvais pas. » Et qu'est-ce que va faire ce monstre de David ? Il va écrire un papier qu'il va remettre à Urias. Et sur ce papier, il a écrit, et ce papier est destiné au supérieur de cet officier Urias, il a écrit, voilà, à la prochaine sortie contre l'ennemi, vous avancerez, et puis à un moment donné, vous vous reculerez pour que Urias soit, se retrouve seul au milieu des ennemis et soit assassiné. C'est quand même un projet vraiment tout à fait ce qu'il y a de plus pervers et pernicieux, hein, vous serez d'accord avec moi. Hein. Alors je vous dis, Jésus, fils de David, oh là là, il y a de quoi réfléchir. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe, on exécute l'ordre du roi, et Bethsabée prend le deuil, et puis elle rentre, après un certain temps, dans le harem du roi David. Mais tout ce qui s'est passé n'a pas échappé à un homme du peuple qui s'appelle Nathan et qui va trouver le roi et qui, de manière extrêmement subtile, ne va pas attaquer le roi en disant « tu as péché contre le Xème commandement ». Pour lui faire prendre conscience de ce qu'il a fait, il va lui raconter une parabole. Et à partir de là, on pourrait aussi réfléchir pourquoi Jésus utilise très souvent ou presque exclusivement des paraboles. Il va lui raconter l'histoire d'un riche qui a des grands troupeaux et d'un pauvre qui n'a qu'une brebis. Et cette brebis, il la choyait comme sa femme, il y veillait parce que, je dirais maternellement, parce que c'est tout son trésor, toute sa richesse. Et un jour, quelqu'un est invité à la table du riche, et le riche, plutôt que de prendre une brebis de son troupeau, prend la brebis du pauvre, la tue et l'offre en repas à son invité de passage. Et à peine Nathan est-il arrivé à ce point du récit que David l'interrompt et lui dit « S'il y a un homme sur cette terre d'Israël qui a fait une chose pareille, je le tue sur place. » Et Nathan lui dit « Eh bien, messire le roi, cet homme, c'est vous. Puisque vous aviez un harem avec plein de femmes et vous êtes allé prendre la femme du pauvre, de celui qui, excusez-moi mesdames, à ce moment-là ne pouvait se payer qu'une femme. » Et c'est ça qui est extraordinaire chez David. Je vous dis, c'est incompréhensible quelque part. Cet homme qui a manigancé tout pour le pouvoir, pour être... et qui ne recule devant rien, devant aucune machination, là, il va faire marche arrière. Et il va dire, « Eh bien oui, c'est vrai, je demande pardon au Seigneur. » On dirait peut-être que c'est un peu facile, hein, demander pardon comme ça, mais n'empêche que le mouvement est là. Et que l'enfant, le premier enfant qu'il a eu de Bethsabée, va tomber malade. Il va même jeûner pour le garder en vie, il va quand même mourir. Et puis, il aura un deuxième enfant qui deviendra le roi Salomon. Aussi, après toute une guerre de palais, pour que ce soit Salomon qui règne à sa place. Et quand on se dit, mais qu'est-ce que c'est pour une histoire ? c'est la lignée qui va régner sur Juda, sur Israël pendant tout un temps. Et c'est une lignée, voilà, où il y a du noir et du blanc, où il y a plus de noir que de blanc, plus d'ombre que de lumière. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire finalement avec toute cette violence? Et face à un texte violent, quelle est la bonne attitude? Enfin, la bonne attitude, l'attitude, je veux dire, pas qui nous permette de dégager une morale, qui nous permet de discerner quand nous sommes confrontés à la violence des autres et à notre propre violence, quel est le meilleur chemin à suivre. Alors je vais prendre un exemple, parce que je vais essayer de ne pas être trop long et terminer avant 9h pour répondre à vos questions. Je vais prendre l'exemple d'un psaume que vous connaissez peut-être, que vous connaissez peut-être mieux sous sa forme anglaise que française, je dirai pourquoi après. C'est le psaume 136, enfin, ou 137, ça dépend comment on le calcule, à la manière grecque ou à la manière hébraïque. Je vous le relis. C'est donc, et je vous redonne d'abord le contexte, le peuple est en exil à Babylone. Quand il est en exil à Babylone, il n'est pas esclave, comme au temps de leur séjour en Égypte. Ils sont prisonniers, ils ne peuvent pas évidemment quitter la Babylonie, ils sont installés sur différents terrains, dans différents villages, dans différentes villes, et ils travaillent pour les Babyloniens, et ils ont une vie, je dirais, normale. Mais ils sont... je dirais, assigné à résidence à Babylone. Et voilà une des prières donc, qui se trouve dans le psautier lorsqu'ils se trouvaient dans ce contexte-là. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au saule des alentours, nous avons harpe. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion ou de Jérusalem. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Je veux que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Et ce psaume se termine par trois phrases épouvantables au niveau violence. Souviens-toi, Seigneur, des fils du pays d'Édom et de ce jour à Jérusalem où ils criaient « Détruisez-la, détruisez-la de fond en comble. Ô Babylone misérable, heureux qui te revaudra les maux que tu nous valus, heureux qui saisira tes enfants pour les briser contre le roc. » Alors, dans le bréviaire des prêtres, hein, mais qui peut être lu par les laïcs, vous verrez que ces phrases-là, elles sont imprimées, hein, mais elles sont entrecrochées. Vous n'êtes pas obligé de les lire. Mais à force de ne pas lire, et vous avez comme ça dans le psautier plusieurs passages, ils sont entrecrochés. C'est vrai que quand on les lit, on se dit, oh là là, est-ce que comme chrétien, est-ce que je peux lire une horreur pareille, hein, briser les enfants contre le roc. Oh là 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 là. Alors, je voudrais dire plusieurs choses. Et donc, vous pourrez, je dirais, extrapoler pour d'autres passages. Premièrement, il ne faut jamais oublier que tous les textes qui sont des récits sur des événements violents sont, je crois pouvoir le dire, les premiers textes au monde qui dénonce cette violence des puissants à l'encontre des petits, des faibles et des pauvres. L'histoire de David, par exemple. Alors que, à ce moment-là, on ne pouvait rien dire contre le roi, eh bien, il y a des gens qui se lèvent 1000 ans avant Jésus pour dire « ça ne va pas ». Et ça, toute la Bible est remplie de ces cris de gens qui disent « ça ne va pas ». On n'est pas d'accord. C'est le premier livre sacré, peut-être même le premier livre tout court, qui, plusieurs centaines d'années avant Jésus, dénonce les violences. Et la meilleure manière de les dénoncer, c'est de ne pas les cacher, c'est de les raconter dans toute leur horreur. Et donc là, la Bible fait une avancée prodigieuse. C'est déjà Amnesty International avant la lettre, des centaines d'années avant Jésus. C'est extraordinaire. Et donc, il faut vraiment, quelque part, s'imprégner de ces histoires. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire tous les livres de René Girard, le philosophe français, où il affirme que la Bible est le premier livre, le premier texte à dénoncer la violence faite au bouc émissaire. Parce qu'il y a aussi toute cette violence faite à une personne ou à un groupe. Eh bien, la Bible est un livre vraiment prodigieux à cet égard. Donc, ne disons pas trop vite, « Oh, il y a de la violence, je referme. » Non, c'est une dénonciation de la violence. Et on voit bien que Dieu propose à Moïse une autre voie, un autre chemin, propose à Élie un autre chemin que ceux qu'ils avaient pris, que le chemin qu'ils avaient pris au départ. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, il faut tout remettre dans son contexte. Si vous oubliez le contexte, alors là, oui, vous allez dire tout de suite, ah, c'est violent, moi, je n'aime pas, voilà. Vous allez comprendre pourquoi des Juifs ont dit « Heureux qui saisira tes enfants pour les briser contre le roc ». Qu'est-ce que les Babyloniens faisaient lorsqu'ils réussissaient à conquérir une nouvelle ville comme celle de Jérusalem en 598, qu'ils ont 598 et 588, qu'ils ont complètement rasé. En fait, ils prenaient les petits-enfants et ils les jetaient des hauts des remparts de Jérusalem pour dire aux Juifs, ainsi vous n'aurez plus de descendance. On veut vous éradiquer tout à fait. Qu'est-ce que vous feriez, vous, les parents parmi vous, si on faisait ça avec vos enfants? Ne me dites pas que vous chanteriez Alléluia, hein, que vous rendriez grâce au Seigneur. Donc il faut se remettre vraiment dans le contexte épouvantable de certaines violences. Et tout simplement, les Juifs qui sont à Babylone, alors que les Babyloniens leur demandent de chanter un petit air folklorique de Jérusalem, ils n'ont évidemment pas oublié ce qui s'est passé quelques années avant. Et ils disent, ce qu'on va chanter, parce que le psaume c'est un chant, ce qu'on va chanter, c'est « Heureux qui saisira tes enfants, Babylone, pour les briser contre le roc ». Et on peut comprendre, et il faut comprendre cette exaspération. Ce n'est pas pour déclencher la haine ou la vendetta, mais je crois que c'est la première. On ne peut pas évoluer sur un chemin qui pourrait un jour nous amener au pardon, dans le meilleur des cas, si au départ, il n'y a pas d'abord une exaspération devant le mal. Et moi, comme vous, quand je me trouve devant ma télévision, que je regarde le journal télévisé, certaines fois, je me dis, Seigneur, fais un peu disparaître ce gars-là. Je ne sais pas, ça doit vous arriver aussi. Quand vous voyez des horreurs, vous ne dites pas ça avec un cœur rempli de haine. Et je crois que vous ne prendriez pas une kalachnikov pour descendre la personne pour laquelle vous montrez cette exaspération. Mais C'est un premier mouvement et les psaumes sont d'abord des cris de gens qu'on n'écoute pas et qu'on écrase et que personne n'écoute. Et au moins, donnons-leur un peu de respect et écoutons ce qu'ils ont à nous dire et le cri qu'ils ont à nous dire. Moi, je me souviens, j'étais curé de Beaufailly à l'époque, et il y a une jeune fille, je crois qu'elle avait 15 ans, qui venait de perdre son papa, qui avait 48 ans, d'un accroc cardiaque vraiment tout à fait imprévu, inattendu. Et elle était révoltée contre Dieu, mais vraiment révoltée. Donc j'ai préparé avec elle, son autre sœur et leur maman, ses funérailles. Et je lui ai dit, écoute, au début de la célébration, si tu veux crier ta haine de Dieu, ta révolte contre Dieu, tu peux le faire. Hein? Et elle l'a fait. Évidemment, on n'a pas continué sur le même mode jusqu'à la fin de la messe, évidemment. Hein? Mais il faut laisser la place à ce cri, à cette révolte. Dans un deuxième temps, il faudra essayer de ne pas garder cette rancune et cette rancœur, parce que une rancune ou une rancœur que vous gardez dans votre cœur, ça vous détruit. Hein? Donc il faut essayer d'aller plus loin. Mais dans un premier temps, il faut laisser cette exaspération devant le mal s'exprimer. Je vous lis, alors je vous recommande le livre d'André Wénin, Psaume censuré quand la prière a des accents violents. Il étudie tous les psaumes qu'on a mis en parenthèse, ou toutes les parties de psaumes qu'on a mis entre parenthèses. C'est pour lire la Bible avec des récits autant aussi violents, c'est un bon décrassage. Ça vous aidera, je crois, à voir plus clair. Lisez-le, ça vaut la peine. Je vous lis justement une partie du texte de André Wénin. Le langage est cru. Je reviens à « Heureux qui saisira tes enfants pour les briser contre le roc ». Le langage est cru, sauvage, mais de qui vient-il ? Dans la fiction du poème, c'est d'un peuple exilé, cassé, impuissant face à ses maîtres, mais qui reste attaché à la ville que ceux-ci ont martyrisée et au Dieu dont elle est le siège. Un peuple qui espère retrouver la joie de cette ville et qui, en attendant, ne peut que souhaiter que justice soit faite. Celle-ci dut-elle avoir un goût de vengeance. Mais ce que ce désir implique plus profondément, c'est que soit mise une fin définitive à la surpuissance de la violence des Babyloniens, au régime de terreur qu'ils imposent aux autres peuples. N'est-ce pas là la condition pour que ceux-ci puissent connaître la paix ? Seuls des gens ayant connu pareille épreuve, sous le nazisme, le stalinisme, ou plus récemment en ex-Yougoslavie, au Rwanda, ou lors des guerres du Golfe, avec leurs conséquences actuelles en Irak et en Syrie, et partout où les réfugiés de ces atrocités cherchent en vain un asile, il n'y a que ces gens-là qui seraient à même de comprendre vraiment. Et il ne faut pas oublier que nous, on a le regard un peu faussé sur ces textes, puisque nous avons la chance, depuis 60 ans, de vivre, 60 ans et plus, de vivre en paix en Europe. Mais quand on est dans d'autres parties du monde, et je pense aussi au Congo aujourd'hui, c'est l'horreur, c'est l'horreur. Ça, c'est le deuxième point, tout remettre dans son contexte. Troisième point, et je continue le texte d'André Wénin à propos de ce psaume. Si l'on supprime les versets qui dérangent dans la finale du psaume 137, celui-ci n'a plus rien d'une prière de supplication. Il devient un simple poème, gentil, mièvre même, plein de nostalgie du passé, avec une pointe de voir celui-ci se raviver. Ah oui, on se souvient de Jérusalem et des chants, etc. Et on va essayer de ne pas oublier Jérusalem. Alors, cette version, vous la connaissez en anglais, et pour tous ceux qui sont nés après 1950 ou 1960, vous avez dansé sur ce psaume. By the rivers of Babylon. Vous connaissez cette musique, hein, de Boniem, hein, au rythme disco. C'est le psaume, mais pas avec la finale. Hein. Pas avec la finale. C'est, ah oui, on se souvient, et c'est l'émotion. Ah oui, Jérusalem, ah, c'est dommage, on n'y est plus. Voilà, on va se rechanter un petit air de Jérusalem, ça nous va nous faire du bien. Ah non, si on ne garde que ça, ben, je dirais, quel intérêt même est-ce que ça a pour nous? Parce que ça, bon, la nostalgie, tout le monde connaît. Mais par contre, comme le dit André Wonin, si on ne va pas plus loin, la révolte devant la violence disparaît, l'espoir de voir la justice rétablie disparaît, on oublie le Dieu dont on a pu douter, mais qui suscite toujours une foi en un avenir meilleur, banaliser surtout la férocité de l'homme contre ses semblables, une férocité dont l'ennemi ne prendra jamais conscience et qu'il pourra donc reproduire impunément. Certes, la violence vindicative atteint ici un sommet difficilement dépassable, en ce qu'elle touche même une partie non coupable d'un peuple. C'est vrai que si les Juifs de l'époque avaient pu conquérir Babylone et faire la même chose, ils auraient tué des innocents. Parce que ce ne sont pas les mêmes personnes qui auraient balancé du haut des remparts leurs propres enfants juifs lors de la conquête de Jérusalem. Ils auraient tué des innocents. Mais, comme le dit très justement André Wonin, cette sorte de génocide, c'est un génocide souhaité seulement. Car on n'oubliera pas que ce ne sont que des mots et que ceux qui les prononcent sont totalement incapables de les concrétiser, tant est grande leur impuissance. Donc il faut bien remettre ça dans son contexte. Ils ne pourraient jamais mettre ce qu'ils disent à exécution. Et d'ailleurs, lorsque ils vont pouvoir quitter Babylone, ils ne vont pas passer leur temps à assassiner des Babyloniens. Je continue le texte d'André Wonin. En effet, leurs paroles témoignent justement de la cruelle impuissance à laquelle la barbarie de l'ennemi les a réduits. Ôter ces mots de leur bouche, c'est les réduire au silence une fois de plus, c'est leur faire violence une fois de plus, une violence à laquelle les âmes soi-disant sensibles seront précisément peu sensibles. La façon de s'approprier la supplication des psaumes, c'est d'abord d'y reconnaître la voix douloureuse de toutes les victimes, le cri des martyrs. Aussi, celle ou celui qui prie donne voix au silence imposé à tant de souffrances. Quand je prie un psaume pareil, je suis en communion avec tous ceux qui n'ont que leurs mots pour se défendre et pour crier leur révolte. Et c'est pourquoi je crois que c'est vraiment important de retrouver cette prière, non pas pour les dire sur un ton hargneux et vindicatif, mais pour être en communion avec tous les souffrants de la terre. Et c'est la dernière phrase du livre d'André Wonin. La révolte, aussi violente que priante des psaumes de malédiction, ne confère-t-elle pas tout son poids d'humanité à la demande du Notre Père, délivre-nous du mal? Je crois que pour dire vraiment « délivre-nous du mal », il faut dire juste avant « mais Seigneur, élimine un peu cette personne, enfin ». Vous savez que, je vous rappelle quelque chose, Qui sont les officiers qui ont mené l'attentat contre Hitler le 20 juillet 1944 ? Ce sont des officiers chrétiens, hein, mais vraiment chrétiens, pas seulement de nom, hein, des chrétiens qui allaient à la messe et qui se sont dit « mais ce gars-là, il faut qu'on arrête, pas possible, c'est vraiment le diable en personne ». Je crois qu'on ne peut pas dire ça, hein, mais eux, ils se disaient « mais l'Allemagne, où est-ce qu'elle va ?» Et donc il y a des moments où, ben voilà, eux ont choisi cette voie-là, hein, bon, ça n'a pas réussi. Mais je crois qu'il faut comprendre vraiment cette exaspération des petits, des faibles, des pauvres. Si je reprends les horribles histoires avec Dutroux, hein, je crois que si, je dirais, suite à quelque chose qu'il aurait fait, il aurait été tué, tout le monde aurait crié « Alléluia hein !» Voilà. Parce qu'on se dit, voilà, et bien sûr, on ne va pas rester là-dessus, hein, surtout pas en tant que chrétien et en connaissant tout l'enseignement et la vie de Jésus sur le pardon. Mais il y a, je crois que si on arrive trop vite à l'étape du pardon, ou si on dit trop vite à la personne, ben oui, mais tu sais, Jésus nous a dit de pardonner, essaye un peu de pardonner. On ne respecte pas la personne. C'est vraiment un grave manquement à tout ce qu'elle a vécu. Et quelque part, on l'enfonce encore un peu plus. Et donc, voilà, je crois qu'il faut vraiment, oui, finalement, avoir un peu d'humanité. Et cette humanité, elle s'exprime dans un premier temps, en tout cas par des paroles violentes, hein, au niveau des psaumes. Je termine pour vous montrer que les Juifs n'ont vraiment pas fermé la porte aux Babyloniens. Ils ont appris toute une série de choses. Et par exemple, ils ont emprunté aux Babyloniens le récit de création avec cette fameuse parole « Il dit, Dieu dit et il fait ». C'est d'abord dans des textes babyloniens. Donc, ils ont vu aussi tout ce qui était positif chez les Babyloniens. La plus grande fête du calendrier liturgique juif, le Yom Kippour, c'est une fête qui est quasiment, dans un autre esprit, bien sûr, un copier-coller d'une fête du pardon, la fête de l'Akitou à Babylone. Un copier-coller. Et ils ont même repris le style d'écriture des Babyloniens, qui est une écriture en chandelier, où, quand vous avez cinq parties dans un texte, la partie 1 et la partie 5 se correspondent, la partie 2 et 4 se correspondent, et la partie 3, c'est vraiment le centre du texte. Donc, ils n'ont pas dit, nous, on coupe tout vis-à-vis des Babyloniens, on ne veut plus en entendre parler, on ne va surtout pas reprendre des bonnes idées qu'il pourrait avoir, mais n'empêche qu'il reste ce cri qu'il faut entendre et qu'il faut continuer à prier aujourd'hui avec tous ceux qui souffrent. Et je termine en vous disant ceci. Si nous voulons vivre un vrai chemin de réconciliation et de pardon, ne soyons pas amnésiques. N'oublions pas la passion avant de parler de la résurrection. Et dans l'autre sens, n'oublions pas que la résurrection suit la passion. Ma phrase, évidemment, n'est pas à prendre dans le pur sens chronologique. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis la résurrection de Jésus suit la passion ? Je veux dire par là que l'histoire était bloquée de nouveau par la violence faite à Jésus, qui n'avait plus rien à faire. Et on voit que les apôtres, d'ailleurs, ils retournent à leur métier. Hein. Pierre, il va pêcher, compagnon d'Emmaüs, ils s'en vont. Voilà, tout est terminé. On a vécu une belle aventure avec Jésus, mais maintenant c'est terminé. De nouveau, et c'est ça le sens profond de la résurrection que les chrétiens oublient trop souvent. Ils parlent trop vite de la vie après la mort. Ça n'a rien à voir dans un premier temps. C'est Jésus qui vient leur dire « Vous m'avez coincé, vous m'avez abandonné, mais je continue à croire en vous malgré toutes les violences que vous m'avez faites. Et je vous charge d'aller continuer ce que j'ai commencé à faire. » Et donc, ce mouvement, je dirais, de violence et de relance et de violence, il atteint son sommet avec la passion et la résurrection de Jésus, mais c'est vraiment un mouvement qui est présent dans toute la Bible et qu'il ne faut jamais oublier. Il y a toujours cette relance de la part de Dieu. Et comment est-ce que cette relance se fait ? C'est parce qu'au cœur même de la violence ou de personnes violentes, il y a Dieu qui leur parle et qui, comme David, arrive à toucher leur cœur. Et il y a quelque chose de nouveau qui recommence. Mais vous ne pourrez jamais diviser les deux. Ah, je vais mettre de côté tout le paquet violence et tout le paquet paix et pardon de l'autre côté. Comme la vie d'un homme, vous devez prendre l'entièreté. J'en reste là. Merci.
Merci, monsieur le doyen.
De rien.
De nous avoir, en tout cas, appris ce soir que la parole de Dieu, nous le prions, ce n'est pas uniquement du sirop d'orgeat, mais c'est aussi de la nitroglycérine. C'est une substance explosive. Donc merci aussi de nous redire que nos lectionnaires sont très limités. Hein. Ça ne contient pas la Bible dans son entièreté.
Et je devrais dire, ce n'est pas mon honneur, je suis chanoine de la cathédrale et on lit évidemment les psaumes et on ne lit pas ces textes mis entre parenthèses. Donc les chanoines de la cathédrale devraient montrer l'exemple. Hein. J'en suis, donc voilà.
Voilà, on en est bien conscient et on est très occupé à arrondir parfois les bords de la croix et à gratter jusqu'au plus profond de nous-mêmes et réduire en nous le sublime inconvénient de devoir parler d'une histoire si embarrassante qu'est la Bible. Et donc voilà, maintenant c'est à chacun de vous de poser l'une ou l'autre question pour éclaircir les propos du doyen. Donc la séance de questions-réponses est ouverte. Moi, j'ai une question comme ça qui me taraude un peu. Je l'ai écrite. Du passage de la mer Rouge aux agneaux sacrifiés, des rois aux mains ensanglantées, à des lapidations, on a compris que la Bible est une histoire truffée de violence. Et vous nous avez parlé aussi de ces personnages peu recommandables. Et évidemment, vous avez dit que la Bible est aussi une histoire à lire, puisque c'est le premier livre qui a parlé de la violence, justement pour la dénoncer. Mais dites-nous aussi, pourquoi devrions-nous recommander cette histoire aujourd'hui à nos contemporains ? Et comment parler encore de Dieu au milieu de toute cette histoire qui est par ailleurs aussi une histoire d'homme. Donc quels sont les critères, quels sont les points, hein, quels sont les arguments pour lesquels nous devrions encore parler de la Bible et la recommander avec tous ces personnages que, comme nous le savons, sont par ailleurs très violents.
Mais parce que je crois que en partant de nous-mêmes et en voyant et en regardant notre propre cœur, il n'y a pas besoin d'aller très loin, mais on voit, et en passant en revue toutes nos mauvaises pensées, je prends cet exemple-là, qui peuvent aller dans tous les sens, mais on s'aperçoit qu'on vit, qu'on est devant le même choix que tous ces grands exemple, pourrais-je dire, de la Bible. Et donc, pour moi, en tout cas, il n'y a pas d'autre livre sacré au monde qui a attaqué ce problème des deux voies, des deux chemins, de manière aussi pertinente. Parce que je crois qu'il ne suffit pas de donner des trucs ou des ficelles pour vivre la non-violence. Vous pouvez suivre des stages, hein, il existe des stages sur la non-violence et la pratique de la non-violence, un peu comme Gandhi hein, l'a fait. Mais n'empêche que pour arriver à cette non-violence, il faudra se faire violence et mener contre soi-même une véritable bataille. Et donc, savoir que dans l'histoire qui me précède, jusqu'à Jésus et après Jésus, Dieu, quelque part, a pris ce problème à bras le corps, dans d'autres contextes, c'est sûr. Mais finalement, c'est d'autres contextes, mais c'est toujours la même violence que René Girard a bien mis en avant. C'est toujours la même violence. Il y a quelqu'un qui me gêne, ou bien j'ai envie de ceci ou de cela, mes désirs ne rencontrent pas les désirs de l'autre, etc. Et donc, c'est important, je dirais, comme on lit certains livres d'histoire sur d'autres pays, sur d'autres cultures, de l'humain reste profondément l'humain. Ici, on est vraiment à la couche humaine, je dirais, la plus basique et la plus universelle, en parlant de violence. Il y a personne qui peut dire « j'ai jamais eu une mauvaise pensée, j'ai toujours respecté l'autre ». Celui qui me dirait ça, ben je me dirais « il ment, c'est pas possible ». On a tous cette violence qui est en nous. D'où est-ce qu'elle vient? Je ne le sais pas, mais en tout cas, je vois qu'il y a un Dieu qui ne s'est jamais découragé de relancer l'homme. Et c'est ça qui... Donc, je prends le tout. Il ne faut pas, évidemment, s'arrêter à la violence pour faire une description de la violence, des mobiles de celui qui a, ou de celle qui a exercé la violence. Non, il faut prendre toute l'histoire. Et, je dirais à terme, en lisant toute cette histoire d'un bout à l'autre, mais vous allez vous dire, à la fin, mais comment est-ce que Dieu peut croire encore en l'homme? C'est ça que tu vas te dire. Et ça, c'est finalement, sur la croix, mais Dieu aurait pu dire, « Ah, vous avez tué mon fils, je vais vous envoyer un déluge, hein. Hop, je ne vais pas attendre que le climat change, hein. Je vais vous envoyer tout de suite un déluge. Si on avait été un être humain à la place de Dieu, qui a patiemment, comme un bon pédagogue, éduqué son peuple, envoyé des prophètes, je vais envoyer mon fils, ils n'oseront pas tuer mon fils. Mais c'est à désespérer de l'homme. Et qu'est-ce que Jésus dit sur la croix? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est hallucinant. Donc, étudier tous ces cas de violence, mais qui sont constamment relancés, c'est une manière de retrouver foi et espérance en Dieu. Pour moi, c'est ça. On ne va pas étudier la violence pour la violence. Enfin bon, il y a des spécialistes, des sociologues, des psychologues qui l'étudient, et c'est très bien, et c'est très intéressant à lire. Et on peut, je dirais, faire les comparaisons entre ce que disent les scientifiques aujourd'hui et la Bible. Mais ici, c'est une histoire de foi. Je crois, si, en prenant la peine de lire la Bible, vous arrivez à la conclusion, je crois en Dieu, qui croit en l'homme, J'aimerais qu'on ajoute ça, moi, dans le credo. Parce que je crois en Dieu, facile, hein, ça ne m'engage à rien. Hein. On peut dire, maintenant, on peut réciter le credo, et puis on sort, je crois en Dieu. Je crois en Dieu qui croit en l'homme. Donc ça veut dire que moi aussi, quand je me retrouve face à la violence, eh bien, je dois essayer de, oui, de négocier, d'abord vis-à-vis de moi-même, le chemin que je vais prendre, et comme Jésus, essayer, et Jésus et d'autres avant lui, de répondre à un excès de mal par un excès d'amour. Parce que c'est ça, c'est répondre à un excès de mal par un excès d'amour.
Merci. Ah ben voilà une question. Merci. Je voulais justement parler un peu de la violence banalisée, l'attrait des gens pour les récits de violence. Donc finalement, dans la Bible, il y a quand même énormément de textes, hein, comme vous dites, sur le doyen, qui sont liés à cette violence. Mais finalement, actuellement, quand on regarde tous les journaux télévisés, qui reproduisent les mêmes images de violence, ce qu'on cherche, c'est quoi? C'est d'avoir l'audimat, actuellement. Et c'est par la violence que ça arrive, l'audimat, les gens... Est-ce qu'il y a une poussée d'adrénaline dans notre cœur qui fait que on aime bien de regarder ça? C'est de la morbidité, pour moi. Et est-ce que ceux qui lisaient la Bible avant, c'était peut-être pareil? Ils lisaient des textes avec la violence pour... Enfin bref, le monde, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, ben, tout le monde ne va pas lire ces textes-là. Il y a des gens qui vont chercher les effets de... Je ne sais pas moi. Je ne sais pas si je me fais comprendre.
Et donc, vous comparez les récits de violence...
Les récits de violence de la Bible avec ce qu'on vit actuellement avec les journaux télévisés, les scoops qui sont fortement associés à des événements violents.
Oui. Mais tout dépend de la manière dont on regarde ces violences auxquelles personne ne peut échapper. Et il y en a eu, il y en aura encore, il ne faut pas se voiler la face. Mais justement, ce qu'il faut, c'est une éducation. Enfin, quelle est une éducation à la manière de regarder cette violence, hein. Et donc, si par exemple... En voyant cette violence, je m'écris comme dans les psaumes, mais Seigneur, fais un peu quelque chose. Là, je dirais, vous êtes sur un autre registre que celui qui va, à la limite, se délecter de la violence qu'il voit comme dans un jeu vidéo. Hein ? Je suis effrayé aussi par la violence de certains jeux vidéo. Je me dis, oulala. Voilà. Donc, dans la Bible, il y a un poids d'humanité vis-à-vis de la violence. Et ce poids d'humanité de tous ces petits, de tous ces pauvres qui crient. Et donc, je dirais, là où, grâce aux réseaux sociaux, on peut bien réagir, c'est en ayant vu, par exemple, le harcèlement contre les femmes, par exemple, avec le mouvement MeToo, ben voilà, il y a eu quelque part une bonne réaction. On a vu certaines vidéos qui sont passées avec le harcèlement, et les gens ont réagi, ils ont dit. C'est un peu comme les gilets jaunes aujourd'hui. Je ne veux pas les défendre, et surtout pas la violence extrême de certains, mais on voit que là, il y a un cri de petits et de pauvres, et que les politiques, et que nous tous aussi, on doit entendre, absolument. Voilà. Alors, si on dit trop vite, ah oui, mais tous ces casseurs qui sont dans les gilets jaunes, je ne supporte pas ça, voilà, et qu'on ferme trop vite la porte à la réflexion, et en n'essayant pas de discerner, là, on n'est pas dans une démarche biblique. Et je ne dis pas ça pour excuser les violences, mais pour que ce soit vraiment un chemin de réflexion. Et vous voyez, il y a toutes ces prises de... En fait, la Bible, je vais le dire comme ça, et puis je vais prendre un exemple actuel, très récent, la Bible a permis à toute une série de personnes de prendre conscience de certaines choses qui étaient acceptées et qui pour elles étaient inacceptables. Et alors, il ne faut pas trop vite se gargariser et se vanter. Hein. Jusqu'en 1995, l'honneur d'une famille ou l'honneur d'un prêtre passait avant le mal fait à un petit enfant. Hein. Jusqu'en 1995. Hein. Ah non, il y a la famille, l'honneur de la famille, il fallait rien faire, on écrasait tout. Allez, tu vas oublier, etc. Donc c'est récent, hein. Tout à fait récent. Hein. Donc, on n'a pas... Maintenant, on dit, non, on n'accepte plus. Hein. Voilà. Et la Bible, ça a été un peu ça. C'est les petits et les faibles qui, à un moment donné, se révoltent. Hein. Et souvent, à partir d'un pic de violence extrême, on dit, ah non, ça, c'est plus possible. Hein. Et donc, voilà, c'est comme ça que toute la société, bon, biblique dans un premier temps, et puis nous, aujourd'hui, on... Mais donc, nos petits-enfants ou vos petits-enfants, quand ils viendront dans un siècle, il faudra continuer à leur raconter les histoires de pédophilie. Je ne dis pas avec tous les détails. Vous savez comment au Moyen-Âge on a fait pour faire prendre conscience de cette histoire horrible, notamment avec Messire Gilles de Rais, qui a été un compagnon de Jeanne d'Arc. Les gens de l'époque, ils étaient plus malins que nous, hein. Il n'y a pas de télévision. Hein. Ils ont commencé à raconter aux enfants des histoires d'ogres qui mangeaient les petits-enfants pour faire prendre conscience aux enfants, pour leur faire peur dans le bon sens du terme. Attention, vous savez, tous les adultes ne sont pas gentils. Hein. Voilà. Mais il faut raconter une histoire comme ça. On va dire, on n'effraye pas les enfants avec des histoires d'ogres. Mais si, c'est, si vous voulez... Les préserver et les éduquer, il faut raconter l'histoire. La Bible, c'est vraiment une histoire et vous ne pouvez pas être amnésique et dire, moi je vais prêcher l'amour, comme ça il n'y aura plus de violence. Non, pour prêcher l'amour, il faut aussi dire la violence et ne pas la cacher et dire qu'on pourrait faire autrement. Oui, ah bon. Oui.
Jézabel, donc, qui était... Est-ce qu'on a des preuves historiques du fait que... Moi, j'ai lu sur Wikipédia qu'elle était sanguinaire, sans morale, etc. Est-ce qu'il y a eu des preuves de ça?
Non, justement, il faut remettre tout dans son contexte. La reine Jézabel, donc, qui va épouser un roi d'Israël, qui va épouser le roi Akab, en fait, c'est un mariage arrangé. Il y a un accord entre le roi de Phénicie et le roi d'Israël. Je te donne ma fille et je te donne le Carmel et tu auras le Carmel en échange pour les prophètes de Baal. Et donc, elle, on le voit bien avec aussi l'histoire de la vigne de Naboth, c'est une princesse de son époque. Et pour son époque, je dirais, elle fait ce qui était normal à son époque. C'était Baal, le vrai Dieu. Il y avait concurrence entre Baal et Yahvé et les prophètes de Yahvé qui remettaient en cause toute cette idolâtrie, toute cette magie, etc. Et donc, quand on s'attaque à ses prophètes, qu'elle payait évidemment, hein, ou à ses prêtres, ben, elle réagit. Hein. Ou bien, l'exemple de la vigne de Naboth est peut-être meilleur. Donc, le roi Akab dit à Naboth, qui est un hébreu, donc un israélite, ah, j'aimerais bien avoir ta vigne, je vais te payer un bon prix, et en échange, je te donnerai un autre terrain. Mais Naboth dit, ah non, c'est la vigne de mes pères, je ne te la donne pas. Ce qui est, à l'époque, 850 ans avant Jésus, ce qui est extraordinaire, qu'un petit homme du peuple puisse dire à un roi, non, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est unique, vous auriez dit ça à Pharaon ou à un empereur assyrien, vous vous y ratiboisez. Le roi, à l'époque, il voulait un terrain où il voulait une femme, il la prenait. Hein. Et donc, le roi respecte la religion un peu spéciale d'Israël. Et il rentre chez lui. Et il est maussade, il pleure même. Et sa femme Jézabel le voit comme ça. Il lui dit, pourquoi est-ce que tu pleures? Pourquoi est-ce que tu n'es pas dans un état pareil? Ah, ben c'est parce que... Et il commence à pleurnicher, parce que Naboth ne veut pas me donner sa vigne, etc. Et Jézabel, elle dit, mais tu es le roi. Tu es le roi, donc tu peux décider de tuer quelqu'un. Et c'était courant à l'époque. Hein. Le pharaon, l'empereur assyrien, babylonien, il était le roi, hein, et il pouvait faire ce qu'il voulait. C'était... Voilà, donc, je crois qu'elle n'était pas plus sanguinaire qu'une autre femme, mais c'était le cadre de l'époque. Mais qui va être dénoncé par les prophètes.
Oui, une petite question. Par nature, l'homme est violent. Mm-hmm. Ce qui est grave aujourd'hui encore, c'est que l'homme s'approprie Dieu pour commettre cette violence.
Ah oui.
Pensons souvent au ceinturon des soldats du Kaiser où il était inscrit « Gott mit uns ». Or, on ne s'approprie pas Dieu, on ne l'achète pas, on le loue. Et bien souvent aussi à la messe, vous allez me dire que ce n'est pas la même armée, mais on chante « Deus Sabaoth », Dieu des armées. Moi, je ne sais pas chanter cela, même si je sais que ces armées, ce ne sont pas les armées, les troupes sur terre, mais les troupes célestes.
Et je crois ne pas me tromper en disant que les armées, ce sont aussi, puisque le Dieu dirigeait tout le cosmos, c'était aussi les étoiles, hein, donc tous les phénomènes météorologiques. Hein, c'était ça, comme Baal, ben, c'était la foudre, l'orage. Donc les armées, dans la mentalité des nomades, il y a certainement une part de vrai dans ce que vous dites, parce que les nomades étaient habitués à faire des razzias, hein, et donc voilà, c'était le dieu des armées qui était avec eux, mais c'était aussi le dieu de la voûte céleste.
Oui, mais pourquoi chanter encore Deus Sabaoth?
C'est... Mais maintenant, c'est une question évidemment de vocabulaire, et ça peut se discuter. En tout cas, ce que les chrétiens ont fait avec toutes ces expressions, c'est de les spiritualiser. Alors, on trouve ça bien ou pas bien, c'est le Dieu qui se bat avec notre le mal. C'est comme ça que plusieurs grands écrivains ecclésiastiques ont dit, ben, c'est toujours le Dieu des armées, hein, qui va nous délivrer du mal. Hein. Et alors on spiritualise. Alors voilà, on dit, ben, vous pourriez me dire, ben, on pourrait quand même changer de vocabulaire, et quelque part je serais d'accord avec vous. Hein. Donc voilà, voilà. C'est vrai que tout, je dirais, tous les mots font problème. Tous les mots, en tout cas, peuvent faire problème. C'est d'autant plus que ça a été traduit de l'hébreu ou du grec et qu'il y a des mots... voilà, il y a un mot qu'il faudrait changer aussi, le Dieu de gloire. Alors, mais il faut savoir qu'en hébreu, le mot gloire, kabod, ça dit le poids et la valeur intrinsèque d'une personne. Ce n'est pas la gloire médiatique. Voilà un mot qu'il faudrait changer aussi. Et voilà, alors il faudrait dire le Dieu de la vraie valeur. Enfin, c'est, vous voyez, c'est, là, c'est vrai qu'on peut, je dirais, trouver à redire hein, sur certains mots. Ben, encore récemment, on a changé la traduction du Notre Père, hein, parce que voilà, ne nous soumet pas. Voilà ça. Et dans 200 ans, il faudra peut-être encore changer, hein, parce que la langue française va évoluer, les mots vont prendre un autre sens, et il faudra peut-être encore trouver autre chose. Là, il y a un travail qui ne sera jamais terminé, mais du moment que vous n'utilisez pas le mot armée dans le sens propre du terme, bon, et que vous le spiritualisez, ou vous choisissez de ne pas le dire. Hein, bon, voilà, parce que, là, que chacun se sente libre, hein, on ne va pas donner des consignes.
Mais je plains Dieu qui doit répondre à tout, dans tous les conflits, il y a toujours le gauche et le droit. Oui. Alors qu'il va périr.
Oui, oui. Vous avez le problème sur les matchs de football, hein, maintenant. Tous les joueurs qui font signe de croix, c'est incroyable, c'est encore plus qu'un mess. Hein.
Et donc
pour quel est-ce que Dieu était dans le Standard ou Anderlecht le dimanche dernier?
Je ne sais pas.
Il faudrait compter le nombre de signes de croix, peut-être. Le doyen, qu'est-ce qu'il dit ici, hein, il faut, s'il n'y a rien que la messe et rien d'autre à côté, et qu'on ne peut pas approfondir la parole de Dieu à côté, on n'avancera pas, on ne progressera pas. Et il faut vraiment que vous, hein, et ce n'est pas, je dirais seulement vous donner des cours, hein, bien sûr on peut suivre des cours, il y a des très bons cours qui sont donnés au centre diocésain de formation, mais il faut vraiment la partager. Et que ce ne soit pas trop technique, mais qu'on puisse retrouver le contexte et justement retrouver une foi et une une espérance en l'homme, hein, en Dieu bien sûr, mais aussi en l'homme. Hein, c'est ça le but. Et qu'on soit, je dirais, vraiment boosté par cette parole de Dieu. Mais voilà, là, si vous avez des idées ou des demandes ou des desiderata, partagez-les-nous. Hein, je suis preneur. Voilà, mais voilà.
Eh bien oui, on a pensé à faire ça, des sessions de parole avec Jean-Pierre pour des personnes qui seraient justement intéressées à approfondir. Et là, ce soir, c'était juste vraiment un avant-goût. Hein, et comme vous l'aurez remarqué, Jean-Pierre, il a beaucoup parlé de l'Ancien Testament. Donc, une autre soirée serait peut-être de parler de la violence dans le Nouveau Testament. En tout cas, je voudrais lui dire un grand merci ce soir pour ce qu'il nous a apporté. On peut l'applaudir et vous applaudir aussi. De votre participation, il me semble qu'il y aurait plusieurs types de violence dans cette Bible. Il y a une violence qui disperse, comme celle des Babyloniens ou des Assyriens qui visaient à disséminer, à disperser les Juifs. Il pourrait peut-être y avoir aussi une violence qui réunit, comme l'agneau pascal, on se réunissait autour de cette violence qui réunissait la communauté. Et là, c'est aussi René Girard. Mmh. On pourrait aussi voir, au fur et à mesure qu'on avance dans la Bible, des personnes qui ne font pas violence, mais qui synthétisent en elles-mêmes ces violences. Saint Paul qui a été lapidé, mais qui n'a jamais lapidé, Étienne qui s'est fait lapider, et Jésus sur la croix qui a synthétisé en sa personne cette violence afin d'en casser, afin de la rompre pour que cette violence ne continue plus. Et aujourd'hui, il a été donné à l'Église de fêter une martyre, Sainte Agathe, cette jeune fille qui n'a pas voulu souiller ce qu'on appelle aujourd'hui encore sa pureté et qu'elle a été massacrée. Et donc voilà, la violence d'aujourd'hui fait encore de nouvelles martyrs, et combien il est important que chacun de nous puisse aussi synthétiser en sa personne, recevoir cette violence et ne pas la transmettre à la manière de quelqu'un qui reçoit un faux billet et au lieu de rendre ce faux billet à quelqu'un qui va continuer, eh bien il empoche, il encaisse le faux billet afin que ce billet ne soit pas transmis et que quelqu'un d'autre n'en soit pas la victime. Merci Jean-Pierre, merci à chacun de vous. Et Jean-Pierre a une petite prière, il va terminer avec une prière, il va même chanter peut-être.
Oui, on va chanter, je vais vous faire chanter aussi, dans bon sens du terme.
Et puis après, dans l'aquarium, le bar sera ouvert, on pourra prendre une bière et continuer un peu à discuter. Il y a des bouquins que vous pourriez éventuellement aussi vous procurer. Et puis, il y a le bouquin que Jean-Pierre vous a proposé, hein, sur les psaumes. Et puis, ne l'oublions point, nous continuons à faire ces conférences et il y aura, à la fin de cette conférence, eh bien, une participation, une quête, comme disait Rudy. Donc, vous participez comme vous pouvez, afin de pouvoir continuer à nous permettre d'inviter des personnes de faire ces conférences et d'offrir cette possibilité à chacun de réfléchir, parce qu'on l'a compris, la messe ne suffit pas et ces conférences sont autant de moments pour continuer à grandir ensemble dans la foi commune qui nous est donnée.
Alors, je vais vous proposer de chanter le psaume 136. Je ne vais pas regarder qui chante ou qui ne chante pas. Hein. Et en fait, je vais vous laisser le refrain qui est de la plus pure tradition catholique ou chrétienne, donc je chanterai les parties plus vindicatives moi-même, voilà. Mais je vous invite à écouter et à vivre cela en communion justement avec tous les petits, tous les faibles qui souffrent, et peut-être d'ailleurs pas loin de chez nous, ou peut-être même dans cette rue, on ne sait pas toutes les souffrances que les personnes peuvent subir dans une vie. Alors donc le refrain que je vous invite à chanter, c'est « Loin de toi Seigneur, comme en exil, nous cheminons dans la foi », c'est le refrain. Et après chaque strophe du psaume, vous ne reprendrez seulement que la deuxième partie, « Nous cheminons dans la foi ». Alors je vous le chante, je vais essayer de trouver la bonne note sans aide. « Loin de toi Seigneur, comme en exil, nous cheminons dans la foi à vous. Loin de toi, Seigneur, comme en exil, nous cheminons dans la foi. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Aux peupliers d'alentours avions pendu nos harpes. Nous cheminons dans la foi. Et c'est là qu'ils nous demandèrent nos geôliers des cantiques, nos ravisseurs de la joie. Chantez-nous, disait-il, un cantique de Sion. Nous cheminons dans la foi. Comment chanterions-nous un cantique du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite se dessèche. Nous cheminons dans la foi. Je veux que ma langue s'attache à mon palais. Si je perds ton souvenir, si je ne mets Jérusalem au plus haut de ma joie. Nous cheminons dans la foi. Souviens-toi, Seigneur, contre les fils du pays d'Édom, du jour de Jérusalem, quand ils disaient « Abba, rasé jusqu'aux assises ». Nous cheminons dans la foi. Ô Babylone dévastatrice, heureux qui te revaudra les maux que tu nous valus, qui saisira tes petits, les brisera contre leur roc. Nous cheminons dans la foi. Loin de toi, Seigneur, comme en exil, nous cheminons dans la foi. Et je vous invite à conclure par le Notre Père, cette prière où nous demandons à Dieu de nous délivrer de la tentation et du mal. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Bonne soirée à tous, bon retour chez vous, et merci